et votre fidélité. Il est midi. Voici les titres du journal.
Les transports publics du Chablais et de Montreux-Vevey-Riviera peuvent compter sur le soutien du canton de Vaud. Le Grand Conseil a validé ce matin un soutien de près de 37 millions aux deux compagnies. L'Assemblée primaire de Saint-Gingolph a dit oui hier soir au projet de budget 2022 de la commune. Sa planification n'a pas été simple, nous dira Yves Terrani tout à l'heure. Lausanne abrite la première plateforme d'innovation collaborative dédiée aux soins et à la santé, baptisée H4. Elle a été dévoilée hier par l'Institut La Source à Lausanne. L'idée, aider les entreprises vaudoises à repenser le système de santé. Au hockey sur glace, Fribourg-Gotteron est à nouveau leader de National League. Et en football, Martigny s'est adjugé le derby valaisan de Première Ligue samedi à Monté. De quoi boucler l'année 2021 sur une bonne note.
Et pour la météo, le ciel sera nuageux cet après-midi avec quelques précipitations en montagne. Pour demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec de fréquentes précipitations. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Alexandra Claude. Bonjour Alexandra.
Bonjour. 37 millions de francs en faveur des transports publics du Chablais et de ceux de Montreux-Vevey-Riviera. Ce soutien a été validé à l'unanimité ce matin par le Grand Conseil vaudois. Cette enveloppe, 10 millions pour les TPC et le reste pour les MVR, doit permettre de soutenir trois tronçons des lignes de Vevey-les-Pléiades, Montreux-les-Rochers-de-Nez et Baie-Villars-sur-Long-Col-de-Breteil. Mais à quoi doit servir l'aide validée par le Parlement vaudois, la réponse de la conseillère d'État Nouria Gorité.
Ça vient financer la part qui est non couverte par la Confédération. Vous savez que ces compagnies de transport doivent investir de l'argent pour entretenir le matériel ferroviaire, pour le sécuriser aussi. Ça représente des dépenses importantes qui sont couvertes par le Fonds fédéral d'infrastructure. Mais ce Fonds fédéral, il exclut du financement les zones, les tronçons qui n'ont pas une fonction de desserte des habitants. Or, dans nos Alpes vaudoises, les destinations qui sont couvertes par ces compagnies de transport, eh bien ce sont des destinations touristiques essentielles pour notre positionnement des Alpes vaudoises. Et donc, nous avons décidé de soumettre au Parlement un soutien financier pour permettre à ces compagnies d'entretenir ces lignes jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la destination finale, qui est souvent d'ailleurs celle qui est choisie par les clients de ces compagnies.
Les deux entreprises vont donc pouvoir lancer les chantiers, chantiers qui font l'objet d'un vœu de la part de la commission du Grand Conseil qui était chargée d'étudier le dossier. Jean-François Thuillard, député UDC et rapporteur de la commission.
C'est un vœu par rapport à tout ce qui se passe sur les procédures de marché public où malheureusement le critère géographique n'est pas assez souvent en ligne de compte. Et le vœu de la commission, c'est qu'on travaille plus avec des entreprises locales ou régionales, avec des matériaux locaux. Il n'y en a pas tellement, mais on a quand même des gravières, on a quand même des forêts en Suisse et dans le canton de Vaud et qu'on utilise prioritairement ce qu'on peut chez nous avant d'aller voir à l'extérieur ce qui est possible d'utiliser.
Un vœu qui est finalement non contraignant parce qu'un petit peu contraire aussi à la loi sur les marchés publics.
Exactement. C'est uniquement un vœu, donc c'est non contraignant pour le Conseil d'État ou pour le maître d'œuvre. Mais toutefois, on essaye de mettre un tout petit peu la pression quand les choix sont faits et que les critères soient adaptés par rapport à l'environnement notamment et éviter trop de transport de matériaux, trop de transport d'ouvriers et de personnel pour ces travaux, qu'on puisse mettre nos forces et nos compétences locales dans la réalisation de ces travaux.
Mais ce vœu est-il contraignant pour les TPC et les MVR? On retrouve la conseillère d'État Nouria Gorité.
Le Grand Conseil sait bien aussi que nous sommes soumis à la loi sur les marchés publics et que ces entreprises ne peuvent pas faire abstraction de cela. Mais c'est une intention qui est témoignée. Et donc, dans ce sens, c'est vrai, il faut se rappeler que c'est de l'argent public qui provient des impôts des citoyennes vaudoises et des citoyens vaudois. Et donc, de rappeler ça aux entreprises, de favoriser là où elles peuvent le faire, les entreprises locales, ça me paraît tout à fait défendable. Maintenant, tout ceci dans le cadre strict du respect de la loi sur les marchés publics auquel nous sommes soumis.
C'était un sujet réalisé par Isabelle Bertolini. Le plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises a été déposé au canton pour approbation. Fruit de 4 ans de concertation menée par les instances régionales et 15 communes signataires, il fixe des objectifs communs et organise l'activité touristique pour les 15 prochaines années. Différents enjeux ont été identifiés par les collectivités pour maintenir et renforcer l'attractivité de la région. Elles entendent planifier leurs besoins en lits et équipements et assurer la coopération coordination entre tourisme, mobilité et protection de la nature et du paysage.
Le canton de Vaud souhaite valoriser le latin et le grec.
Un plan d'action pour renforcer l'attractivité de leur apprentissage déploiera ses effets lors des 4 prochaines années scolaires. Placé sous la responsabilité d'une déléguée aux langues anciennes, il vise à sensibiliser le corps enseignant, les élèves et leurs parents à la plus-value apportée par l'étude de ces deux langues, et cela dès l'école primaire. Il permettra également d'aider les directions des établissements du secondaire 1 et 2 à ouvrir des classes en cas de petits effectifs d'élèves.
Le projet de budget 2022 de la commune de Saint-Gingolph était à l'examen de l'Assemblée primaire hier soir.
Oui, et ce budget, adopté par 33 voix contre et une... par 33 voix contre une et deux abstentions, prévoit une perte de l'ordre de 252 000 francs et une marge d'autofinancement négative de 60 000 francs pour un total de charges de quelque 4,5 millions. Mais surtout, Yves Terrani, c'est ce que vous êtes venu nous dire. Le coucher sur le papier s'est révélé un exercice particulier.
Oui, deux raisons à cela. La première a trait au passage à un modèle comptable harmonisé dont le Conseil d'État valaisan a décidé cette année l'introduction. Dans les faits, ce modèle laisse peu de marge de manœuvre aux communes en termes de présentation des comptes et des budgets. Et puis, il y a la conjoncture, bien sûr, toujours remplie d'incertitudes liées avec la crise sanitaire.
On l'a dit, Yves, excédent de charges au programme et un budget gingolé qui n'incite pas à l'optimisme.
Le président de la commune, Damien Roch, en convient, même s'il relativise quelque peu.
Un budget, ça reste un budget. Le principe, c'est toujours de rester prudent, puis d'avoir une bonne surprise à la fin, si on peut. Le but, c'est de pouvoir travailler dans le sens positif. Et je pense que de faire appel à une certaine prudence dans la budgétisation, notamment pour une commune, c'est indispensable pour pouvoir justement améliorer les choses. Si on partait du principe que tout était beau, on se contenterait de se taper sur l'épaule et on n'améliorerait pas les choses. Tandis que là, on voit que notre commune a besoin d'améliorer ses structures et d'améliorer son compte de fonctionnement.
Et précisément, Yves, en matière d'investissement, l'exécutif de la commune de Saint-Gingolph voit large.
Un programme ambitieux, un montant d'un peu plus de 756 000 francs est planifié, qui reprend, il faut le préciser, les 340 000 francs d'investissement qui étaient portés au budget 2021, mais qui n'ont pas pu être réalisés. Le plus gros montant net pour 2022, 200 000 francs, doit être affecté à l'achat de la carrière du Fenalet. Conseiller municipal chargé de l'aménagement du territoire, Vincent Moulin nous explique l'intérêt de cette acquisition en lien avec la revalorisation du paysage des rives du Léman.
Ça permettra de combler en fait un trou existant avec des matériaux nobles et qui garantirait un apport financier important pour la commune.
Donc vous allez exploiter cette carrière ?
Oui, nous allons l'exploiter, mais pas dans le sens zone de dépôt de matériaux pour être ensuite acheminé ailleurs. C'est vraiment les matériaux qui seront mis en place resteront là de manière définitive.
Autres investissements importants, le réseau d'eau potable, il y en aura pour 120 000 francs, et l'aménagement du cône de la rivière La Morge, à des fins bien sûr de sécurisation, montant prévu 688 000 francs, dont il faudra déduire cependant 516 000 francs. De subventions.
Saint-Gingolph veut donc aller de l'avant avec tout de même une conséquence.
Le président Damien Roch l'a annoncé à l'Assemblée primaire hier soir, il s'agira probablement pour sa commune de recourir à l'endettement en 2023. On l'écoute.
Alors il faudra voir l'avancée des différents projets effectivement, mais si on doit refaire justement notre réseau d'eau, je pense que ça sera effectivement nécessaire de recourir à l'endettement. Après aujourd'hui on a une fortune nette par habitant, ce qui nous pose justement problème pour la péréquation, hein, puisque c'est la première année depuis bien longtemps où on touchera quasiment pas 3 francs, on pourra dire que c'est rien de péréquation financière intercommunale, et c'est vrai qu'avec notre niveau d'infrastructure actuelle qui est quand même effectivement légèrement en retard, ça nous pose quand même problème.
Vous dire encore qu'en poste depuis quelques mois, le nouveau conseil communal gingolais a repris tous les dossiers en cours. Objectif, mener des réflexions nouvelles dans l'intérêt de la population locale, y compris bien sûr financièrement parlant.
Merci Yves. Précisons que nous entendrons plus largement le président de Saint-Gingolph, Damien Roch, sur notre antenne dans le club ce soir en direct entre 17h et 17h30. En Valais, toujours, un contresens a été intercepté hier soir sur l'autoroute. Une conductrice se déplaçait entre Sion et Ride sur la chaussée réservée à la circulation des usagers se dirigeant vers la capitale. Alertée à 22h30, la police cantonale a immédiatement mis en place un dispositif qui a permis d'arrêter ce véhicule à la hauteur de Chamozon. Ce contresens, qui s'est déroulé sur quelques 10 km, n'a pas occasionné d'accident. La fautive, une femme de 78 ans domiciliée dans le Valais central, a été dénoncée aux autorités concerné. Son permis de conduire lui a été saisi sur le champ.
Retour dans le canton de Vaud, où l'Institut vaudois La Source veut révolutionner le système de santé.
Il a dévoilé hier à Lausanne sa plateforme d'innovation collaborative dédiée aux soins et à la santé. Un concept unique, H4, sera géré par le Source Innovation Lab au sein de la Haute École de la Santé. Sa responsable nous explique la mission que la plateforme aura à remplir, Dominique Truchot-Cardo.
On va permettre de mettre en relation les innovateurs et les utilisateurs finaux, que sont les soignants, les patients, les proches, pour pouvoir, d'une manière commune, accéder à l'innovation la plus pertinente et la plus pratique pour tout le monde.
Donc l'idée, c'est que vous accompagnez les porteurs de projets.
Alors l'idée, ça c'est ce qu'on fait depuis plus de 3 ans, mais maintenant ça va être renforcé. Les porteurs de projets, en général, c'est les innovateurs viennent vers nous avec une idée. Et nous, par notre expertise, on analyse cette idée à leur côté, voir déjà si c'est une bonne idée. Et puis après, de voir avec eux quels freins ils rencontrent. Parce que souvent, ils viennent ici parce qu'ils ont des freins. On est dans un écosystème, la Health Valley, qui est très très pertinente au point de vue des incubateurs et des accélérateurs. Donc on a tout ce qu'il faut. Simplement, on s'est aperçu à un moment donné que le petit maillon manquant était cette connaissance des soins très précise. Moi je dis toujours, on peut avoir la plus merveilleuse des chaussures de marche, si vous avez un petit caillou dedans, c'est moins pratique. Donc nous, on est chasseurs de petits cailloux qui font qu'après ça s'envole. Et on a plein d'exemples de choses extraordinaires qui bloquaient sur une connaissance peut-être éthique, sur une connaissance peut-être d'hygiène hospitalière, et qui, par le fait qu'on les ait débloqués, après se sont envolés.
En quoi le H4, ça n'existe pas encore ?
Bah écoutez, on a eu beau chercher. Alors, il y a beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accélérateurs, beaucoup d'expertise vis-à-vis des questions de business, d'économicité. Mais quelque chose qui s'intéresse aux soins, on n'a pas trouvé encore. Alors, ça n'existe pas parce que les soignants pensaient peut-être que c'était pas de leur rôle d'aller se mettre là-dedans. Et les innovateurs pensaient pas qu'il y avait peut-être autant de monde derrière le moindre projet. Donc, c'est pour ça que ça n'existait pas. Maintenant, nous, on est là. Ça pourrait être démultiplié par 5 ou 6, que je pense que ça ne serait pas trop pour répondre aux vraies demandes. Parce que ça prend du temps d'analyser ces chaînes de valeur, d'analyser les comportements, de les changer, ça prend beaucoup de temps.
La plateforme sera opérationnelle dès le 1er janvier. Elle représente un investissement de 3 millions de francs sur 5 ans. La moitié proviendra des caisses de l'État de Vaud et l'autre de celle de l'Institut La Source et de ses partenaires. Un sujet d'Isabelle Bertolini.
Il n'y a pas de ville qui ne connaisse pas des amateurs de bruit de moteur.
Les voitures qui vrombissent exagérément dans les rues, un vrai problème selon l'ancien architecte cantonal valaisan Bernard Ratinger, qui a imaginé un appareil pour lutter contre de telles pratiques, intitulé Noise Over. Cet outil fonctionne comme un radar au bruit, en mesurant les décibels émis par un véhicule et en prenant sa plaque en photo. Un tel outil intéresse la police, comme l'explique le lieutenant-colonel Bernard Vunier, Bertrand Vunier, responsable unité logistique de la police cantonale valaisanne.
On salue cette démarche qui a été faite par M. Attinger. Il nous a approché, c'est vrai qu'au mois d'avril dernier, pour avoir un petit peu des idées, en fait, de savoir qu'est-ce qui nous intéresserait dans ce projet-là. Et oui, on le suit avec un intérêt assez marqué pour le futur.
Le but, ce serait justement que la police valaisanne puisse disposer de ce type d'appareil pour pouvoir cibler les fauteurs de troubles et puis les amender pour autant que la base fédérale, la base de la loi le permette.
Justement, comme vous le dites, avant tout, ce serait de se doter de bases légales qui nous permettraient d'intervenir. On peut actuellement l'utiliser pour faire des tests d'ergonomie, voir dans quel cadre on pourrait l'utiliser. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'homologation ou de base légale qui nous permet de l'utiliser, ben pour le moment, on va simplement l'utiliser à faire des tests.
Pour vous, c'est compliqué sur le terrain de trouver des personnes qui font beaucoup de bruit avec leur véhicule et de pouvoir les amender si par exemple, c'est du matériel non homologué.
Alors, c'est pas difficile de les trouver, mais c'est difficile d'intervenir en fait quand on est confronté à ce genre de personnes. On n'a que les bases communales en fait, les règlements communaux qui nous permettent de dénoncer les gens ou alors si les véhicules ont des défectuosités techniques. Sinon on peut rien faire si ce n'est de la prévention.
C'est quand même un problème que vous rencontrez régulièrement, plutôt dans les villes j'imagine.
Moi, c'est vrai que c'est surtout dans les grandes villes que ça se passe. Parfois aussi dans les zones résidentielles, dans les stations de montagne où les gens vont pour passer un peu des vacances et puis parfois font appel à la police parce qu'ils sont dérangés par des bruits de véhicules.
Bertrand Vunier avec Valérie Blom, et comme mentionné par le responsable de l'unité logistique, ce radar aux décibels ne va toutefois pas se retrouver de suite dans nos rues puisque les chambres fédérales doivent d'abord valider une base légale, notamment sur le volume sonore à partir duquel le responsable peut être amendé.
Les serres et les jardins de Malévaux vont être rénovés.
Et ils accueilleront un confiturier, des initiations à l'art du végétal et un jardin cultivé sous le signe du développement durable. Et à l'instar de la galerie d'art et du théâtre du quartier culturel de Malévaux, ce projet fait de la place à l'art et à la créativité. Écoutez à ce propos Hélène Joie-Cognard, chef de la section encouragement des activités culturelles du service valaisan de la culture.
Ça sera un jardin agriculturel parce que oui, il va s'inscrire dans un périmètre qui n'était encore pas complètement utilisé par la culture, les serres de Malévaux, mais les activités culturelles vont simplement s'étendre sur ce périmètre. C'est-à-dire que par exemple, les activités théâtrales pourront désormais avoir lieu dans le théâtre de verdure à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir des activités culturelles de différents types et en lien avec la production agricole aussi.
Les approches multidisciplinaires font partie de l'ADN de Malévaux. Le site Montaison cultive ses mélanges depuis plus de 10 ans. Et cette alchimie entre la culture et les soins est bénéfique pour les patients et le personnel de l'hôpital. C'est en tout cas ce que pense le docteur Georges Klein, médecin-chef du pôle de psychiatrie et psychothérapie du centre hospitalier du Valais-Romand.
Un lieu de soins dans un environnement culturel et social qui est habité, je pense que ça peut aider, soulager ou contribuer finalement à ce que les gens qui travaillent sur place, et pas seulement les infirmiers, les médecins, mais aussi tous les autres personnels, que ce soit le personnel de maison, l'intendance, l'administration, la cuisine, enfin toutes les personnes qui permettent aussi à ce que les soins puissent avoir lieu, je pense qu'offrir un cadre aussi à ces personnes certainement contribue à ce que les soins qui sont donnés pour ces personnes puissent être meilleurs.
La concrétisation du projet est prévue pour 2022 et les coûts seront supportés par le canton du Valais et la Confédération, un sujet réalisé par Guillaume Abbé. Gad Elmaleh, Yann Lambiel, Yann Marguet ou encore Stéphane Guillon, voilà quelques-uns des noms qui se trouvent sur l'affiche du Maxi Rire. Le festival de Champéry se tiendra l'année prochaine du 28 mars au 2 avril. Anesthésié par la pandémie en 2020 et 2021, l'événement revient pour une 14e édition renouvelée. La billetterie ouvrira virtuellement ses portes ce mercredi à 7h du matin. L'urgence pandémique, c'est d'endiguer la 5e vague de contamination aux variants de coronavirus Delta, mais aussi de tout faire pour retarder l'arrivée du variant Omicron. Telle est la stratégie présentée hier par l'Office fédéral de la santé publique à Berne. Un durcissement des mesures a été opéré pour les voyageurs provenant des pays touchés par Omicron. Le point avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Difficile de savoir si l'arrivée du variant Omicron est inquiétante. À entendre les spécialistes de l'Office fédéral de la santé publique cet après-midi, on saura demain si le cas présumé d'une personne revenue en Suisse en provenance d'Afrique du Sud est avéré. On ne sait pas grand-chose d'Omicron, reconnaît Patrick Matisse. Il est possible que sa transmissibilité soit plus forte que celle du variant Delta, estime la présidente de la Task Force, Tania Stadler, en s'appuyant sur les constats faits en Afrique du Sud. Mais on ne sait pas s'il provoque des cas graves de maladie et si le vaccin protège comme face au Delta. L'urgence, disent les experts, c'est d'endiguer la situation critique de la 5e vague au variant Delta. Près de 20 000 nouvelles infections ces 3 derniers jours, avec 155 hospitalisations et désormais 219 malades du Covid aux soins intensifs. C'est cela qui est inquiétant pour la directrice de l'OFSP, Anne Lévy.
Oui, il faut faire attention pour le moment parce que c'est le virus qui circule, mais ça c'est le virus Delta. Les restrictions de voyage, c'est contre Omicron. Mais tout ce qu'on fait ici, toutes les mesures comme le port des masques, la vaccination et aussi les distances, les règles d'hygiène, tout ça, on fait contre Delta. Et c'est le plus important pour le moment de vraiment baisser les chiffres qui sont en train maintenant de se doubler toutes les 2 semaines, si je suis bien informée.
La stratégie de l'OFSP, en attendant de possibles mesures du Conseil fédéral vendredi prochain, endiguer l'actuelle vague et retarder l'arrivée d'Omicron. L'espoir de cette stratégie, que Delta ait réduit ses ravages pour permettre ensuite de gérer au début 2022 Omicron. Alors dit-on à l'OFSP, de manière inlassable, en plus du port du masque à généraliser, mais c'est de la compétence des cantons, il est plus nécessaire que jamais de se faire vacciner et de s'annoncer pour la 3e dose pour celles et ceux qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois.
Et notez que les autorités sanitaires néerlandaises ont annoncé aujourd'hui avoir détecté le variant Omicron dans un test prélevé le 19 novembre, une semaine plus tôt que ce qui était estimé jusqu'ici. Et des contrôles sont en cours pour voir dans quelle mesure il s'est propagé.
Trois femmes ont prêté serment hier au Parlement fédéral.
Il s'agit de la conseillère Rosetta Fribourgeoise Isabelle Chassot et des conseillères nationales baloises Patricia von Falkenstein et vaudoise Céline Weber. Elles succèdent respectivement à Christian Levrat, Christophe Heymann et Isabelle Chevalet. La moins connue des néophytes est la vert libérale vaudoise Céline Weber, dont c'est le premier mandat électif. Elle est ingénieure spécialisée dans les énergies renouvelables. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin l'a rencontrée lors de son entrée au Palais fédéral. Écoutez Céline Weber à propos de ses premières impressions.
C'est sûr que c'est un jour particulier pour moi, rempli de beaucoup d'émotions, mais aussi de joie. Et je suis très reconnaissante par rapport à tous les électeurs et électrices qui m'ont permis d'obtenir ce siège au Conseil national. Et je me réjouis beaucoup maintenant de pouvoir me mettre au travail.
Vous êtes ingénieur et PFL du monde de l'entreprise, puisque vous en avez une à vous. Qu'est-ce que vous prévoyez d'apporter avec ces qualités-là au Parlement fédéral ?
Effectivement, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le monde des énergies renouvelables. D'abord comme employé, maintenant effectivement à mon propre compte. Et ça me donne une vue d'ensemble très large de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui marche moins bien. J'ai aussi eu l'occasion de plusieurs années de travailler à l'étranger. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment envie d'apporter mon expérience du terrain dans les débats du Parlement, notamment évidemment dans les débats sur la transition énergétique, mais pas uniquement, aussi dans d'autres sujets. Et à part ça, j'ai la chance d'être parfaitement bilingue. J'ai vraiment envie de pouvoir officier aussi comme pont entre les Suisses alémaniques et les Suisses romands, tout en défendant bien sûr avec ferveur la Suisse romande.
Dans 2 ans, vous devrez être réélue, si vous êtes bien sûr candidate à cette réélection. Comment est-ce que vous allez faire pour vous manifester, pour vous pousser en avant si nécessaire ?
C'est sûr qu'en 2 ans, il n'y a pas énormément de temps. Maintenant, il y a plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et dans lesquels j'ai effectivement envie d'être moteur, comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, la transparence vis-à-vis des consommateurs sur ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent, bien entendu la transition écologique, pour mentionner quelques exemples. Et c'est clair que sur ces sujets-là, j'ai vraiment envie d'être moteur. Après, c'est sûr que ça va être un subtil équilibre à trouver entre d'un côté quand même travailler ces dossiers consciencieusement parce que je déteste parler de ce que je connais pas, mais en même temps effectivement dans ces 2 ans acquérir une certaine visibilité, tout à fait.
À l'intérieur du groupe des Verts libéraux, vous aurez en quelque sorte 2 parrains si on peut les appeler comme ça. D'ailleurs, vous êtes installé entre les deux, messieurs Pointet et Mater. Comment vous ferez là pour vous faire un nom?
On a malgré tout tous nos sensibilités, on a nos personnalités différentes. Et pour moi, il ne s'agit pas de les mettre à l'ombre, au contraire, de travailler ensemble pour qu'ensemble, on arrive à faire progresser notamment les problèmes environnementaux, les problèmes de la transition écologique. Avec ça, avec un travail consciencieux, mais qui amène des solutions, je pense qu'on devrait réussir à se faire un nom.
Vous succédez à Isabelle Chevalet, qui était la première élue verte libérale romande ici au Parlement fédéral. C'est un héritage compliqué.
C'est pas un héritage compliqué, c'est un grand honneur pour moi. Isabelle a amené énormément pour le parti. C'est une personne de conviction, c'est une personne qui a été avant-gardiste et qui a toujours mené ses combats avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie aussi de m'imprégner de ça. Après, j'ai pas non plus l'envie d'être une Isabelle bis. J'ai ma personnalité, j'ai mes combats que j'ai envie de mener. Et je pense que c'est en gardant sa propre ligne qu'on parvient le mieux à faire bouger les choses.
C'était la nouvelle conseillère nationale vaudoise vert libérale Céline Weber au micro de Serge Jubin. Le sulfureux polémiste d'extrême droite Éric Zemmour devait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle française ce midi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il sera ensuite l'invité du journal télévisé de 20h de TF1. Hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a retrouvé hier soir son fauteuil de leader de National League. Devant leur public, les Dragons ont pris la mesure de Zurich au bout du suspense. Dans une rencontre où les deux équipes n'ont jamais réussi à se détacher, ce sont finalement les Fribourgeois qui se sont imposés sur le score de 4-3 après la séance des tirs au but. À la veille de la revanche en terre zurichoise, les hommes de Christian Dubé ont donc assuré l'essentiel, mais l'attaquant québécois de Gotteron, David Desharnais, admet que sa formation a éprouvé des difficultés face à Zurich.
C'est une bonne équipe de hockey, ils sont venus très fort en partant le match. C'est sûr qu'en première période, on semblait un peu surpris, mais on a continué de travailler. Puis en troisième période, on était très bons, puis on était capable d'aller chercher un gros but, puis 2 gros points. Sans trouver d'excuses, le voyagement la semaine passée, on est revenu, un petit peu lent à commencer, puis juste de retrouver le rythme un petit peu, puis c'est comme ça que je l'expliquerai.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Fribourg. Ce soir, Fribourg-Gotteron et Zurich vont donc se retrouver au Hallenstadion. De son côté, Lausanne accueillera le HC Ajoie alors que Genève-Servette se déplacera à Lugano.
En football, le FC Martigny Sport a tenu la dragée haute au FC Montet ce week-end.
Pour le deuxième derby valaisan de Première Ligue cette saison, les pensionnaires du stade de Philippe Potier recevaient la formation octodurienne dans des conditions météorologiques difficiles. Devant leur public, les Montaisans n'ont rien pu faire face au réalisme des visiteurs et se sont inclinés 3-1. Si la pause hivernale ne sera pas de trop pour le FC Montet, qui a enchaîné 3 revers consécutifs, le capitaine des Chablaisiens, Romain Deriva, rappelle toutefois que son équipe est née au promu.
Moi, je prends l'année complète. On a enfin pu monter. On fait un bon premier tour. 17 points, c'est très bien pour un promu. Maintenant, les deux derniers matchs viennent gâcher ce tour, mais il ne faut pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait sur les 12 premiers matchs. Et puis, maintenant, se reposer et revenir en forme en janvier.
Dans le camp adverse, c'est tout l'inverse. Après un début de saison très difficile, le FC Martigny Sport termine ce premier tour sur des notes positives avec 2 succès à l'extérieur face à Monté et Vevey. Sur le banc octodurien depuis 6 matchs, David Orlando, entraîneur du FC Martigny Sport, est revenu sur ses débuts alors qu'il vivait dimanche son 6e match sur le banc octodurien.
Bah oui, après on ne veut pas trouver d'excuses, mais on sait que c'est pas facile de reprendre une équipe en plein milieu d'une saison. Et puis voilà, on a eu aussi beaucoup de poids sur les 4 premiers matchs, hein. On méritait d'avoir plusieurs points. Maintenant, ben, on finit de la meilleure des façons. Mais c'est clair que voilà, je dis le plus important, c'était de pouvoir recoller au classement, et c'est ce qu'on a fait.
L'heure est désormais à la pause hivernale pour le FC Monté et le FC Martigny Sport. Les Octoduriens passeront l'hiver en tant que lanterne rouge, tandis que les Chablaisiens sont 9e. Un sujet signé Ludovic Turin.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.